il est encore question d'art, des arts et du patrimoine, et même un grand projet, très impressionnant même. L'idée est de transformer le moulin-mer de Logona d'Aulas, qui a eu plusieurs vies, il a même été une discothèque. Depuis quelques années, il ne s'y passe plus rien. L'énorme bâtiment et ce qu'il reste de son domaine sont à l'abandon, alors qu'il pourrait s'en passer des choses. Voilà pourquoi Véronique et Jean Rouanet, un couple plein d'énergie, ont lancé le MM Projet, un sacré défi qu'ils vont nous raconter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et surtout quel est votre lien avec Logona d'Aulas ?
Oui, alors moi je suis Véronique Rouanet et je suis là aujourd'hui avec mon mari, donc Jean Rouanet. Je suis très liée à Logona depuis toujours parce que la famille de ma mère y est installée depuis, je pense, 1600 et des brouettes. Donc j'ai toujours eu des liens assez forts avec le village, même si moi j'ai grandi à Guipava. Mais je passais tous mes étés à Logona. On est d'une grande famille, donc on est une vingtaine de cousins, donc on se retrouvait souvent très nombreux l'été. On allait camper à Port-Disquin. Entre parenthèses, est quand même beaucoup mieux que le Yélène, mais on ne va pas rentrer peut-être dans ce
débat-là
aujourd'hui. Mais bon, quand même. Donc voilà, j'ai grandi, voilà, j'ai passé tous mes étés à Port-Disquin, après toute l'adolescence aussi où je campais là-bas. Et donc j'allais en boîte au Seaside, qui était la boîte du Moulin-Mer. Et toute la famille en fait, de ma mère est dans la descente du Moulin-Mer, donc qui est route du Moulin-Mer, il y a la ferme au Cosquer et toutes les maisons là. Et on s'est mariés là avec Jean. Jean est nantais, mais il est tombé tout de suite amoureux de Logona. Et donc, on a toujours passé pas mal de temps là. Et il y a quelques années, on était tous les deux en train de se demander comment faire évoluer notre vie professionnelle. On avait le projet, on habite à Paris depuis nos études. Mais,
vous êtes dans la communication, enfin, pour résumer. Quoi.
Ouais, en gros, je suis dans la communication et Jean est plutôt dans les médias. Ouais. Et on se disait qu'on n'avait jamais travaillé ensemble et qu'on aimerait bien travailler ensemble. Donc, on réfléchissait ensemble à un projet qu'on pourrait avoir. Et donc, traditionnellement, à chaque fois qu'on vient en Bretagne, donc on allait chez mes parents à Guipava, on allait toujours se promener à Logona sur les sentiers côtiers. Et donc, on passe devant le Moulin-Mer, qui est quand même l'endroit un peu incontournable. Et puis, on regarde ce bâtiment et on se dit, c'est quand même trop bête, faudrait qu'on en fasse quelque chose.
Ça fait combien de temps qu'il est inoccupé
Il est inoccupé, je crois, depuis 87.
Il est fermé depuis 87.
Donc, quasiment à l'abandon. Enfin, il est toujours un propriétaire, mais oui, voilà.
Oui, c'est ça. Voilà, donc, il a un propriétaire privé. C'est une propriété privée, mais c'est vrai qu'il n'en fait rien depuis 87. Et il est en vente depuis une vingtaine d'années à peu près. Et donc voilà, donc on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire dedans. Au départ, on était un peu parti sur une idée d'espace de coworking, de quelque chose. On a toujours eu envie de faire quelque chose, un endroit où les gens puissent se croiser.
C'était la grande mode, hein, ceci dit, pendant il y a quelques années.
Voilà, et même avant le Covid.
Oui, tout à fait.
Ça a commencé vers 2019. Moi, je travaillais pas mal avec des grosses boîtes qui avaient des gens sur tout le territoire et qui recréaient des espaces de bureaux. Dans des endroits comme ça. Donc, je dis, bah tiens, peut-être que ça pourrait être intéressant. Après, on s'est dit, bon, Logona, il faut quand même y arriver. Je ne suis pas sûre qu'un espace de coworking, ce soit.
Bah, je crois qu'il y a d'ailleurs eu un espace de coworking au bout de Vérodierne qui n'a pas fonctionné.
Oui, Svensson House, oui.
Voilà.
Et d'ailleurs, ça faisait partie de nos inspirations. On était allé rencontrer Kevin Le Goff pour discuter avec lui de comment il avait monté son projet. Et il nous avait envoyé vers Maison Papier, qui est à Audierne. Donc
Monsieur
qui est
Papier.
Monsieur Papier, Maison Papier. Qui est à Audierne, où là où c'était aussi un café ouvert, mais avec des personnes qui travaillent sur place, ça nous plaisait bien. Et donc on a élargi, en plus de fait on côtoyait pas mal d'artistes et on sait qu'il y a toujours une difficulté à trouver des endroits où travailler dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que la plupart des villes et des villages ont des salles polyvalentes. Les salles polyvalentes sont des super endroits pour faire des spectacles, des rencontres, mais pas forcément pour travailler. Il n'y a pas de plancher pour les danseurs, il n'y a pas de moyen de faire le noir pour les acteurs. Enfin bref. Et donc on s'est dit, bah, c'est ça qu'on a envie de faire. Il y a 2000 mètres carrés dans le moulin, on veut faire des grandes salles de répétition. Puis petit à petit, on s'est dit, puis on aura quelques chambres pour les artistes, et puis on aura après un café qui sera ouvert à tout le monde. Et puis les choses se sont... Voilà, au fur et à mesure du travail,
oui, on a un peu évolué.
Ouais. Et on est arrivé plutôt sur une idée de résidence d'artistes qui est ouverte à tout type d'artistes, mais notamment aux artistes en troupe, parce que c'est souvent eux qui ont du mal à trouver des endroits où travailler. Donc des chanteurs...
Spectacle vivant plutôt, quoi.
Oui, enfin, alors chanteurs, danseurs...
Comédiens.
Parce que c'est souvent eux qui ont besoin de grandes salles pour travailler, d'endroits... mais avec effectivement quelques chambres d'hôtel et puis un café, hôtel, restaurant qui soit ouvert à tous de manière à ce que les artistes puissent faire des restitutions et que et puis qu'ils puissent aussi se mélanger à la population et pourquoi pas monter des projets avec eux, puisque l'idée aussi d'une résidence d'artistes, c'est souvent quelque chose où les artistes sont un peu entre eux et ils sont un peu isolés du monde. Nous, on voulait vraiment être dans la commune, dans l'Ogonat, pour y venir tous les ans depuis donc un moment, puisqu'avec mes frères, on a hérité de la ferme familiale, donc on y vient assez souvent. C'est vrai que le bourg de l'Ogonat est super sympa, il y a la grignotière, il y a chez Cathy pour acheter un café, mais c'est vrai qu'on avait aussi envie de créer de la vie dans l'Ogonat.
L'Ogonat, c'est une commune éclatée de fait en plus, donc voilà, autant créer plusieurs, un autre pôle peut-être.
Oui, voilà, exactement.
Pourquoi pas. D'ailleurs, comment la mairie de l'Ogonat reçoit votre projet?
C'est les premiers qu'on est allé voir.
C'est Gilles Calvez, ouais, qui était maire à l'époque de transition, que nous avons rencontré la toute première fois, c'était en septembre 2019. Et première question, c'est mais comment êtes-vous tombé sur l'Ogonat d'Aoulas, 2200 habitants? Et là, comme Véronique vous l'a expliqué, on lui a fait cette réponse-là. Donc c'était plus clair. Et on lui a dit, on a besoin d'aide pour que le projet, à l'époque, on était très orienté sur une participation, une implication des pouvoirs publics. Donc,
mais vous auriez voulu que ça soit un bâtiment public, en fait?
Alors, idéalement...
Pourquoi pas, oui.
Idéalement, oui, à l'époque, le bâtiment... Oui, appartenir à la mairie, j'allais dire, ça aurait été plus facile pour pointer les sources de financement possibles. Bon, plus rapide, mais peut-être plus facilement identifiable. Bon, bref, c'est un bâtiment privé, il fallait faire avec. Et en revanche, en même temps que nous menions la réflexion, on s'est fortement inspiré du modèle économique de la Fondation Royaumont, dans le Val-d'Oise, l'abbaye de Royaumont. Et c'était une conjugaison privée-publique qui a permis à ce lieu extraordinaire de revivre, maintenant il y a plus de 60 ans. Et on a vraiment étudié de près, à tel point que son directeur général, Francis Maréchal, fait partie de notre comité de pilotage. On y reviendra. Bref, et donc le maire, Gilles, nous dit, on va vous aider à ouvrir des portes. La commune ne peut pas supporter financièrement, on le comprenait très bien, mais au moins avancer pour rencontrer le maximum d'acteurs publics susceptibles de nous aider, d'ouvrir des portes, de nous mettre en relation avec des personnes privées ou publiques capables de s'y intéresser, voire de le financer. Voilà, c'est parti comme ça. Et du maire de l'Ogonat, grâce à lui, on a rencontré le président de la Comcom à l'époque, donc Patrick Leclerc, qui est le même, c'était en octobre 2019.
Et qui préside d'ailleurs maintenant Brest Tourisme Océane et qui a un grand projet pour la rade, n'est-ce pas?
Oui, le pays de Landerneau d'Aoulas a pris de l'envergure, maintenant c'est une com d'agglo. Et il nous a tout de suite dit, votre projet s'inscrit totalement dans ce qu'on souhaite faire, on va vous aider. On va vous ouvrir d'autres portes. Et de porte en porte, il y a un petit groupe de travail qui s'est créé avec Brest Air Océane et Olivier Costil aussi, qui était très, très présent dès le départ.
Le directeur, en fait.
Oui, c'est oui. Ça, hein. Donc forcément, c'était un projet qui donnait vie, qui créait de la vie économique, qui soutenait aussi l'attractivité touristique. Le gros sujet, en clair, c'est tout le monde est d'accord pour trouver le projet fantastique, c'est les sous.
Mais oui, toujours.
Et puis un élément aussi qui était important, c'est que le projet était sympathique, intéressant, et il fallait que nous ayons la crédibilité aussi pour le porter. La notoriété, c'est toujours parce qu'on a nos bonnes mines et nos slides et notre PowerPoint, mais concrètement, la question qui nous a été posée de façon beaucoup plus délicate, mais vous êtes qui et êtes-vous crédible pour porter le projet? Donc ça nous a bien stimulés. Et donc on s'est dit, oui, ils ont raison. Et donc il faut qu'on bâtisse vraiment un projet extrêmement solide, qu'on s'entoure de personnes crédibles, donc d'où la création du comité de pilotage, et aussi toutes les études, ça allait de soi, pour démontrer que, un, le lieu était à vendre, à quel prix, est-ce que sa réhabilitation était possible? Techniquement, c'est toujours possible, mais à quel coût? Et puis, comme c'est un lieu extrêmement préservé, Natura 2000, là on est à côté du parc d'Armorique régional, donc...
C'est dedans, en fait.
C'est totalement dedans, donc il y avait beaucoup de contraintes. Et surtout, après, on rentre dans la logistique, le stationnement, enfin voilà. Donc, il a fallu répondre mener des études, à la fois pour savoir si notre projet, comment était-il perçu, s'il était techniquement viable, économiquement viable aussi. Donc, ça nous a pris du temps. Parallèlement à ça, il a fallu promouvoir, comme je vous le disais, le projet auprès du grand public, pour qu'on puisse susciter l'adhésion et l'avoir, et de la même façon auprès des artistes. Donc, c'est un travail qui nous a animés pendant 2020, 2021 et 2022. Et pour raccourcir les étapes, il y a un an, en juin 2022, on a eu la très bonne surprise d'avoir un appel d'Atout France, opérateur.
Donc là, c'est le, on va dire, l'Agence touristique nationale.
Voilà, ça, en charge du rayonnement de la France à l'international, mm-hmm. qui nous dit « On a vu votre projet, ça nous intéresse, est-ce qu'on pourrait en savoir plus ?»
Ah bah oui.
Oui. Donc on leur a pris rendez-vous, et puis nous ont dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Atout France a développé depuis un an un programme qui s'appelle « Réinventer le patrimoine », qui a pour but d'identifier des sites remarquables dans toute la France et d'en faire un facteur économique et d'attractivité touristique. En clair, créer de l'emploi et de l'attractivité. Donc on a rempli un cahier, un dossier, on a été retenu, et on est très fiers de le dire, même un an après, qu'on a été le premier projet breton à s'inscrire, à être retenu dans ce programme national. Et ça, ça a mis un sacré coup d'accélérateur. Déjà, ça crédibilisait 2 ans de travail, ce qui fait toujours du bien. Ça donnait une autre dimension à notre projet. C'était plus Rouennais qui portait, mais là, c'était...
C'est l'État, quoi.
C'est l'État qui voilà, labellisait, en fait, voilà, c'est le ça, projet. C'est... Et surtout, ils ont débloqué des fonds, 20 000 euros, pour mener des études avec un cabinet d'audit qui était in extenso, donc un tiers de confiance, pour refaire, entre guillemets, tout le travail qui a été mené, mais avec des professionnels. De fin 2022 à début 2023, ils ont mené une étude sur comment est perçu ce projet-là, correspond-il à un besoin, à une attente. Ça, c'était la première phase. Phase validée. Et donc, après, ils ont audité intégralement le business plan, le modèle économique. On a eu les résultats, donc 6 mois d'études. On se situe fin mars, début avril 2023. Les clignotants étaient ouverts. Restait, et ça, c'est le boulot aussi d'Atout France, d'accélérer la mise en relation avec des partenaires susceptibles de participer, de financer le projet. Et on en est là.
Vous ne pouvez pas encore les citer, les partenaires.
Non. Voilà. On a notre dossier. On a le label et le tampon Atout France in extenso. On sait que le projet répond à toutes les questions positivement. Perception, utilité, attente et modèle économique, viabilité du modèle. Voilà.
Et alors ce modèle, quel est, enfin, déjà le budget en gros, et quel est le modèle?
Alors sans rentrer dans les détails, le budget global. Nous, on travaille sur une réhabilitation du bâtiment principal, le moulin, 2000 m², réaménagement du parc, 6 hectares, pratiquement 7 hectares.
Oui, tant que ça, oui. Oui. On ne le voit pas forcément en fait.
Oui, parce qu'il est enfoui, on ne peut pas s'y promener maintenant.
Oui, oui, c'est ça.
Avant, on pouvait. L'étang, qui fait également 6 hectares et demi, est sorti du domaine, donc il est du domaine public. Et puis il y a cette fameuse digue magnifique. C'est un des accès au moulin, il y en a un autre. Aller vers le centre nautique. Bref, l'enveloppe sur laquelle on est parti, réhabilitation et équipement, c'est-à-dire réhabilitation du bâtiment et tout l'équipement nécessaire pour un bâtiment sur de 25 chambres, équipement, on était sur une enveloppe de 7 millions. Et durée des travaux, estimée par les architectes, à 2 ans. Votre question, c'était sur...
C'était quel modèle économique, voilà. Comment le faire vivre, enfin,
alors, dès le départ, on a su aussi que l'époque des subventions, c'était terminé. L'époque de la main tendue, c'était terminé. Et donc, on s'est dit, il faut... fort du modèle qu'on avait sous le coude, j'allais dire, de Royaumont, pouvoir embarquer privé ou et public. Ça existe, mais pas dans toutes les régions. Dans le Finistère, ce modèle-là n'existait pas. Donc, il a fallu faire preuve de démonstration et de pédagogie. Et notre modèle économique, c'est résidence artistique et touristique. En clair, pour faire simple, si on prend l'exemple de TF1, c'est les annonceurs qui permettent aux téléspectateurs de regarder gratuitement la télé. Donc là aussi, on s'était dit, c'est le modèle touristique, c'est la dimension touristique, restaurant, hôtel, qui cofinancera la possibilité d'y accueillir des artistes.
Donc, il faut un tourisme d'une certaine gamme quand même.
Alors,
là,
d'une certaine cas, gamme, il faut surtout des clients.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Avec un modèle économique sur le prix de la chambre. Ça, c'est la première pierre dans le modèle. Après, on a un voisin qui s'appelle le Centre Nautique, qui pratique des prix extrêmement bas dans un site merveilleux, parce qu'ils reçoivent des financements publics. Donc, on a regardé ce modèle-là. On aimerait bien aussi le conjuguer. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une association, le véhicule le plus simple à créer, mais qui permet aussi d'avoir des fonds, des subventions, et d'avoir une activité, et une structure commerciale à côté, comme je vous disais, pour la dimension hôtellerie-restauration. Et puis, notre boulot aussi, c'est de pouvoir faire cofinancer des résidences d'artistes par des entreprises. Et donc, ça, ça fait partie aussi du développement commercial qu'on assumera en tant que responsable de la dimension résidence artistique.
Du mécénat, enfin.
C'est du mécénat actif, exactement. Mm-hmm. Parce que, pour reprendre l'exemple de Royaumont, il y a un pôle de mécènes historiques, renouvelé régulièrement, mais il y a vraiment un socle qui contribue à la vie, à la réhabilitation de la bière, donc, en l'occurrence, et aussi à l'hébergement d'artistes tout azimut. Donc c'est sur le modèle sur lequel on est, qui fonctionne, donc qui a été validé par le cabinet d'audit Atout France, et qui est maintenant à nous et à Atout France d'embarquer un ou deux partenaires, plutôt privés. ça nous convient bien aussi. Encore, ce qui est important pour nous, c'est... Véronique a insisté dès le départ, c'est-à-dire à l'origine du projet, c'est que la dimension artistique, ce n'est pas un décorum.
Oui, c'est d'abord le cœur du projet. Quoi.
C'est vraiment le cœur et la colonne vertébrale du projet.
C'est ce qui va permettre aussi à la population locale d'adhérer. Enfin...
Ça donne une autre dimension à ce lieu. Déjà, le lieu en lui-même est facteur d'attractivité, c'est indéniable. Humblement dit, le lieu fera venir, nous on fera revenir.
Les artistes, alors vous avez dit un peu quel type d'artistes vous pensiez recevoir, mais est-ce qu'on peut en savoir plus ? Est-ce que vous avez déjà des artistes qui vous soutiennent, des noms ?
Alors on a, dès le départ, on a lancé un compte Instagram, donc c'était en plein pendant le Covid, donc tout le monde était sur Instagram, ça tombait bien. Mais où effectivement on a exposé le projet et de nombreux artistes sont venus vers nous et nous ont dit ça nous intéresse. Donc maintenant, on a une galerie des artistes sur notre compte Instagram où on a tous les noms. Donc on a vraiment de tout. On a des comédiens, on a des acteurs, on a des chanteurs, on a pas mal de plasticiens, de peintres, etc. Nos premiers parrains marraines qu'on a contactés et qui ont adhéré au projet pendant le Covid, c'était Marion Barbeau et Simon Le Borgne. Donc Marion Barbeau, elle est danseuse à l'Opéra de Paris, et Simon aussi. Elle est première danseuse, et là, elle est devenue, en fait, beaucoup plus connue, parce qu'elle est l'héroïne du film de Clapiche. Et l'anecdote assez amusante, c'est que le dernier film de Clapiche, on avait fait on était à un moment de développement de projet où on était un petit peu pas découragé, mais en tout cas on était un peu dans la période un peu en bas, quoi, comme dans tout projet entrepreneur.
C'est normal.
Il y a parfois des moments un peu en bas, voilà. Et donc le vendredi soir, on se dit allez, on va aller regarder le film donc encore de Clapiche, et puis Clapiche, ça nous met toujours de bonne humeur. Et l'histoire, c'est quand même l'histoire d'une résidence d'artistes qui accueille, en plus, dans le sud de Bretagne, une troupe de danseurs. Et on est sorti de cette projection en disant, déjà, on était très heureux de voir Marion dans ce rôle-là. Et puis, en plus, elle est vraiment chouette dedans. Et puis, ça nous a vraiment motivés. Donc, les premiers, c'était Marion Barbeau et Simon Le Borgne qui devaient venir tourner dans le moulin, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. On avait l'accord du propriétaire, etc. Puis, à cause du Covid, on n'a pas pu. Mais on est resté en contact avec eux, et par eux et par d'autres, on a quand même pas mal de danseurs. On a des gens d'ici, on a vraiment des gens du coin, et on a aussi des gens de partout, en fait. C'est amusant parce que on est contacté par des peintres anglais.
On a des gens
qui habitent au Japon. Enfin, c'est drôle parce que ça bouge beaucoup. Donc effectivement, on a rencontré pas mal de monde, et là donc. On va travailler vraiment concrètement sur une première série d'ateliers là, à partir du mois prochain. Et en fait, tous les ateliers qu'on va faire vont être suivis par un couple d'artistes plasticiens qui s'appellent Michel Cam et Anne-Laure Maison. Et ce sont des artistes brestois. Enfin, lui, en tout cas, il a grandi à Brest. C'est vraiment un brestois pur de dur. Et ils vont nous suivre, et on les a rencontrés grâce à ce projet-là, quoi.
Et d'ailleurs, puisque vous parlez des ateliers, allez-y, détaillez-nous ce que vous proposez.
Alors, au bout de 3 ans, donc après avoir vraiment travaillé et labouré toutes les terres qu'on pouvait labourer, on a eu quand même un peu de frustration de se dire, et puis d'ailleurs, à Tout France, on nous a dit aussi, ça serait bien que vous commenciez à montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc il y avait aussi cette volonté de montrer. Déjà, on était frustrés, on avait envie de faire, et puis on trouvait ça important de le faire. Donc on a créé ce qu'on a appelé des meet-up. Donc c'est des rencontres entre des artistes. Cette fois-ci, on a choisi un public de jeunes, mais on aurait pu prendre des vieux. Là, en l'occurrence, on a pris des collégiens, lycéens, et on leur propose donc de rencontrer au cours de trois ateliers des comédiens, chanteurs et danseurs. Donc chaque atelier dure une demi-journée. Au cours de ces ateliers, on propose aux jeunes de partager une pratique avec les artistes, donc d'essayer l'art, et ensuite de voir comment les artistes le font, donc de les voir faire, et puis ensuite de discuter vraiment à bâton rompu pour que aussi les jeunes se rendent peut-être mieux compte de la réalité de ce qu'est être artiste, de tout ce qu'il y a autour, et puis aussi qu'ils se rendent compte que oui, c'est tout à fait possible, on peut habiter à Logona, au Fou, à l'Opérette ou Helsinki et devenir artiste, en fait, c'est pas limité. Voilà, donc on fait ces 3 ateliers, et chaque atelier donc est suivi par un couple d'artistes plasticiens qui va s'inspirer de ce qu'ils vont voir et des rencontres qui vont se faire, pour ensuite créer. Ils font des grandes images, des grands collages, et on va le projeter sur les murs du moulin.
Voilà. Donc l'atelier, c'est à la salle Kejaden, mais
chaque atelier est à la salle Kejaden, puisqu'on n'a pas le moulin. Donc, et là aussi, c'est pour ça qu'on dit que la mairie, elle est plutôt... elle n'est pas plutôt d'ailleurs. Elle est vraiment derrière nous, elle est plutôt positive. D'ailleurs, la première subvention qu'on a reçue était une subvention de la mairie de Logona. Et donc, ils nous accueillent dans la salle municipale, et puis, parce que notre association aussi est basée à Logona. Et puis ensuite, donc, on projettera sur les murs du moulin.
Donc ça, c'est il y a trois dates.
Il y a trois dates. Il y a le 23 septembre, le 14 octobre et le 18 novembre. Le 14 octobre, c'est avec Sylvie O'Haraud, qui était chanteuse du groupe Brigitte et qui va venir animer un atelier chant et musique. Et ensuite, donc le 18 novembre, c'est avec c'est un atelier danse. Et là, donc on souhaitait que ce soit Marion qui vienne, mais elle n'est pas disponible. On est aussi en fait en contact assez étroit avec un danseur du Béjart Ballet qui a fait l'école de danse du Divette Magarès, donc qui est brestois. Donc en plus, ça nous paraissait vraiment chouette qu'il vienne. Et là, pour le coup, c'est Béjart qui ne veut pas qu'il vienne. Enfin, pas Béjart, mais l'école qui ne veut pas qu'il vienne. Donc là, on a encore plusieurs options pour le danseur, mais on a un petit peu de temps pour le trouver. Mais là aussi, c'est de pratiquer avec des jeunes qui ne sont pas forcément des pratiquants. On ne veut pas avoir que des gens qui font du théâtre, que des gens qui font de la musique ou que des gens qui font de la danse, mais plutôt des jeunes curieux. Parce qu'il doit en exister, des jeunes curieux.
Il faut quand même s'inscrire, parce que le nombre de places est limité, j'imagine.
C'est entièrement gratuit pour les jeunes.
C'est les collégiens, donc c'est 12-18 ans, collégiens-lycéens. Et ces meet-up sont possibles grâce à une opération de crowdfunding qu'on a lancée, et à notre... à la commune de Logona qui nous met à disposition sa salle, et aussi à notre mécène, que l'on salue, l'espace culture et tendance du Leclerc du Relec. Donc merci à Pascal et Jean-Yves. Et on est ravis, parce que là, c'est près de trois ans, comme le disait Véronique, c'est très concret. Et c'est vraiment un échantillon et une mise en bouche de ce qu'est le MMM projet, très concrètement.
Et oui, donc il faut s'inscrire. Et donc, on a sorti des leaflets et des affiches. Alors, les affiches, on va les mettre partout. D'ailleurs, on va en mettre au fou en sortant. mais on en met effectivement. Ce qui nous intéresse, c'est que ce soit aussi des jeunes qui soient de Logona et des alentours. Donc voilà, l'hôpital, l'opérette... Daoulas, mais après, si des Brestois veulent venir,
ils sont là.
Oui.
On est très ouverts et on a fait donc un QR code sur l'affiche pour qu'on puisse s'inscrire. Et sinon, avec le numéro de téléphone aussi, c'est tout à fait possible de nous joindre.
Et donc, c'est un mode d'implication de la population, ça.
Oui.
Vous avez parlé de crowdfunding pour financer ces ateliers.
Oui.
Vous avez d'autres opérations comme ça prévues vers la population, hein. Je ne parle pas encore des financeurs.
Toutes les opérations sont les plus ouvertes possibles. On peut dévoiler peut-être même une quatrième date qui sera le 16 décembre, donc dans la continuité des trois premiers ateliers. Et là aussi, on était très ravis du coup de téléphone. C'est Philippe Renard du Quartz qui nous a dit « ça vous intéresserait qu'on fasse un partenariat pour que vous hébergiez une pièce de théâtre du programme de la saison
en Quartz ?» En effet, ils font ça, oui, tout à fait.
Donc on était ravis. Donc on vous donne d'ores et déjà la date. Ce sera même lieu, salle Kejaden à Logona. C'est le 16 décembre, ce sera une pièce de théâtre.
Alors, c'est une pièce de théâtre qui est la résolution d'une enquête policière.
Ah oui.
Qui s'appelle La Clé. Et c'est ouvert à tous les jeunes à partir de 12 ans et à leurs parents, en fait.
Famille, oui.
Tout public familial. Et ce qu'on va essayer de mettre en place aussi, donc là, ce n'est pas confirmé, mais on travaille dessus. On s'est mis en relation avec la bibliothèque aussi de Logona. Et on veut faire un atelier d'écriture suite à cette représentation pour que, là aussi, une dizaine de jeunes, à peu près, puissent travailler avec le metteur en scène autour de fins alternatives ou d'un thème et de continuer à travailler autour de ce spectacle-là.
Donc, ça serait éventuellement envisageable d'avoir pratiquement une fois par mois un rendez-vous comme ça avec l'association
MMM Projet. On n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir en faire, pas toutes les semaines, mais oui, de vraiment avoir une programmation très régulière, ouverte au public. Ouais.
Donc ça dépend, après, tous les artistes, ils sont très contents. Ça dépend aussi de notre capacité, effectivement, à trouver des mécènes pour nous accompagner, parce que nous, ce qu'on veut aussi, c'est promouvoir le travail des artistes. Donc on veut pouvoir aussi, au-delà de les défrayer, pouvoir au moins leur donner une compensation financière. On est là pour qu'ils puissent travailler. Donc ça dépend aussi de notre capacité à mobiliser des mécènes, soit des privés, soit des entreprises, comme à l'image du Leclerc de Kerion.
Et pour trouver les grands mécènes du MM Projet, votre stratégie, c'est quoi ?
Alors, faut dissocier partenaire,
ouais.
Qui consiste à l'acquisition réhabilitation. Là, c'est un gros morceau.
Voilà.
Et on le gère différemment avec Atout France. Et une fois que cette étape importante sera passée, c'est à nous, en tant que responsables et pilote de l'association MM Projet, d'aller chercher et de s'entourer d'un cercle de mécènes qui partagent cette envie qu'on vous a racontée et puis qui puissent laisser leurs traces ou contribuer à ce que la culture, parce que c'est toujours une phrase, la culture pour tous, partagée par tous.
Oui, c'est impensif, comme on dit.
C'est vraiment le truc qu'on sort un peu tous les jours, ça fait toujours bien de le dire, mais concrètement, on se rend compte aussi que ce sont souvent les mêmes qui sont dans les musées, qui sont dans le théâtre, donc comment on fait ? Donc voilà, ça c'est du... On trouvait que l'association d'un lieu remarquable, que vous ayez une attirance pour l'art ou pas, mais en tout cas... Aller dans un endroit où vous avez la mer, la campagne, un bâtiment extraordinaire et par le plus grand des hasards, vous n'étiez même pas au courant, vous entendez un pianiste, un chanteur, vous vous rendez compte qu'il y a une expo, c'est une façon d'amener le grand public ou toute forme de public en se disant « Ah, c'est pas mal, j'y vais ». Donc c'est susciter les rencontres, elles s'opèrent ou pas, c'est à libre à chacun après d'y aller, mais voilà, c'est une façon, d'amener toute forme de public à la culture. Et si en plus ils peuvent essayer gratuitement ou pas, ou rencontrer ou discuter avec des artistes, ça multiplie les chances d'ouvrir et de donner les possibilités du plus jeune âge ou même à tous les âges de s'y mettre au théâtre, de danser, parce qu'on n'a jamais osé, parce que ce n'était pas dans la culture familiale. On sera ravis en tout cas, c'est ce qui nous anime depuis le début.
Et dans un site naturel fort remarquable, au passage, ce qui n'est pas dommage.
Et la rade de Brest, on en parlait tout à l'heure, est un terrain de jeu extraordinaire, différent... avec tous les paysages et toutes les couleurs. Et l'Ogona fait partie des pépites. Il y en a d'autres, mais en toute objectivité, étant nantais, donc je peux en parler librement. Vous êtes finistérienne toutes les deux, mesdames, donc vous n'êtes pas objectives sur le sujet. C'est un spectacle du 1er janvier au 31 décembre. Fascinant.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et on va vous souhaiter vraiment une pleine réussite dans le même projet.
Merci à vous. Beaucoup.